Alors essayez de vous dire comment et pourquoi aller chercher la parole des gens supposerait, pour répondre à une vieille habitude des sciences sociales, à essayer de vous dire un peu, mais d'où est-ce que je vais vous parler? Une des façons de faire pourrait être, mais vous allez vous en rendre compte bientôt vu l'immobilité de l'écran qui est derrière moi, de vous dire, je vous parle du front de lutte contre la dictature du PowerPoint. Et là, évidemment, des grimaces certainement apparaîtraient dans la salle. Mais où serait donc cette neutralité scientifique, puisque cette parole-là vous ferait plutôt penser à une forme d'affirmation militante? Vous savez, à vrai dire, en sciences sociales, on dit souvent que la fameuse neutralité scientifique, on n'en part pas, tout au plus on y arrive, et que ça suppose un long et patient travail, bien souvent de déconstruction, de tout un tas de subjectivités avec lesquelles on aborde les phénomènes de société qui forcément nous concernent, puisque nous sommes tous des êtres sociaux. Donc, pour essayer de vous dire un peu d'où je parle, il faudrait que je vous indique un certain nombre d'éléments, dont certains vous les avez peut-être devinés. Un genre, par exemple, autrement dit, mon sexe tel qu'il s'est socialisé. Une génération, là je peux vous mettre sur la piste, j'ai 52 ans. Bon, aussi, une classe sociale, une identité professionnelle. Alors ça, on vient de me présenter, on a dit que j'étais sociologue. On pourrait préciser que j'ai une activité à la fois d'intervention dans des formations, mais également de recherche, mais pas que. Mais ça, je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Et puis quand même, autre élément intéressant, et ça va ressortir dans mon présent exposé, j'ai jadis passé du temps en Couserans. J'ai même été habitant du Couserans pendant 5 années. Et il se trouve que en ce temps-là, j'ai passé du temps à la fois à écouter, donc à recueillir de la parole, mais également à parler, donc à interagir à faire interagir ma parole et celle des personnes que je rencontrais. Et il se trouve que de temps en temps, il m'arrive encore de venir en Couserans et du coup d'essayer aussi d'aller chercher cette parole des gens et d'essayer à partir de là de comprendre un certain nombre de choses. Donc vont venir maintenant deux exemples pour vous montrer peut-être d'abord comment, et puis peut-être à vous de décider du pourquoi. Donc en gros de est-ce que ça en vaut la peine aller chercher la parole des gens, où je vais essayer de vous montrer finalement ce que ça a pu m'amener de recueillir de la parole de gens. Donc le premier temps, je suis désolé, il ne remonte pas aux causes du Quercy, il ne remonte pas au dernier tréteau du paysage, il remonte beaucoup plus loin que ça. Il remonte au temps où j'étais facteur en Couserans et où, pour moi, aller chercher la parole des gens, ça se faisait sous la forme de la cueillette. En somme, je n'étais pas encore un chasseur, mais j'étais peut-être à ce moment-là un cueilleur de paroles de gens. Effectivement, pendant 2 ans, c'était entre 1990 et 1992, j'ai exercé l'intégralité du métier de facteur rattaché au bureau de poste de Castillon en Couserans, donc on est bien, si je ne me trompe, sur le territoire du parc naturel régional, et habitant à l'époque, de plus, dans la vallée de Bethmale, donc étant un habitant du territoire du parc. Pendant 2 ans, chaque jour, j'ai été au contact de personnes, environ 350, mais que je rencontrais ou pas, bien évidemment, à qui je parlais ou pas, bien évidemment, et qui me parlait ou pas. Et tout ça, évidemment, a de l'importance quand on essaie de faire de la cueillette de parole. Alors, peut-être plus à la façon de l'ethnologue que du sociologue, avant tout, je partageais une météo, peut-être plus qu'un climat. Je partageais des éléments de mode de vie, parfois d'activité, puisqu'il m'arrivait de donner un coup de main au passage. Et puis du coup, j'entendais, je disais des choses qui s'inscrivaient dans ma mémoire immédiate. Et, parce que là, je suis en train de vous parler vraiment de méthode, même s'il n'en paraît pas, un moment après, c'est-à-dire une fois que j'avais ramené au bureau de poste tout le fruit des lettres recueillies dans les boîtes aux lettres, donc ma cueillette officielle en quelque sorte, j'écrivais sur des carnets tout ce qui venait de se passer au cours de ma tournée, tout ce que je venais d'entendre, tout ce que je venais de dire, conscient bien sûr qu'il y avait certainement déjà un effet de censure et de filtre de ma mémoire immédiate, mais malgré tout, essayant de me reposer là-dessus pour avoir vécu au plus fort le partage dans un premier temps et essayer quand même d'en tirer quelque chose. Alors, je vous avoue que les carnets se sont accumulés en 2 ans. Il y en a eu une épaisseur d'une bonne 30aine de centimètres. Les pages, d'ailleurs, s'allongeaient de jour en jour parce que la mémoire immédiate, forcément, quand on la sollicite, on la travaille et donc elle finit par retenir de plus en plus de choses. Et donc, il est arrivé un moment où j'ai pu associer des paroles entendues, mais aussi des gestes. Parce que la parole, c'est bien gentil de la recueillir, mais souvent elle est intéressante en rapport avec des pratiques. Et quand on peut connaître les circonstances dans lesquelles la parole est émise, quand on peut connaître l'échange de gestes qui l'accompagne, en somme, associer le non-verbal au verbal, on apprend beaucoup de choses. Et on apprend finalement des choses parfois sur soi. Et peut-être que dans le fond, aller chercher la parole des gens en ce temps où j'étais leur facteur, comme ils le disaient eux-mêmes et elles-mêmes, ça m'en a appris sur moi. Alors pour ça, il a fallu que je me souvienne de ce qu'on me disait au moment où des choses se passaient. Alors je pourrais faire une focale pour vous aider à comprendre sur une pratique, je ne sais plus si elle existe encore, s'il y a des facteurs dans la salle qui le disent, mais qui était à l'époque une pratique assez répandue, qui était celle du pourboire. Donc des gens me donnaient des pièces et m'expliquaient en même temps pourquoi ils me les donnaient, ce qu'il fallait que j'en fasse, me disaient même les raisons pour lesquelles il fallait surtout que je les prenne, parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout habitué, j'étais après tout un agent de l'État déjà à cette époque, et je n'étais pas censé recevoir d'extra rémunération, donc je refusais catégoriquement les premières, et on m'expliquait pourquoi il fallait que je les prenne, et puis pour m'aider d'ailleurs ce que je pouvais en faire. Et donc petit à petit, en associant ces gestes et ces paroles, en associant d'autres formes de gestes et d'autres formes de paroles, je suis arrivé à mieux comprendre les éléments de ce qu'on appelle en sciences sociales un système de dons et de contre-dons. C'est-à-dire que finalement, quand les gens vous donnent quelque chose, souvent c'est associé, mais parfois différé dans le temps, parfois différé dans la personne, à un don aussi qu'on va recevoir, ou qu'on s'attend à recevoir. Et donc, ainsi faisant, petit à petit, en associant toutes ces paroles, tous ces gestes, en passant par un certain nombre de focales, j'en suis arrivé à l'idée que la poste se trompait en pensant envoyer chaque jour auprès des habitants du Couserans un employé agent de l'État de la poste. Je me suis rendu compte que la réalité du statut local, c'est-à-dire du statut tel que les gens le vivaient eux-mêmes, du facteur, c'était celui d'une sorte de domestique public qui était en premier lieu attaché aux gens auprès desquels il passait plutôt qu'à l'institution postale. Et ça, évidemment, ça change pas mal de choses. Ça a fait d'ailleurs, quand j'ai commencé à l'expliquer à la poste, qu'il a fallu bien vite que je trouve un autre métier. Et ça m'a permis de comprendre à mon échelle, donc à l'échelle, on pourrait dire, de ce que j'ai découvert en Couserans, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mots, donc les paroles, ne désignent pas les choses. Ils désignent le rapport qu'on a aux choses. Et ça, ça me paraît un élément très important. Dans d'autres montagnes que les Pyrénées, dans celles des Alpes, il y a un certain Jean-Pierre Darré qui est allé essayer de comprendre pourquoi, en parlant des mêmes animaux, les zoologues n'auraient pas de manière différente de les distinguer, ni les zootechniciens d'ailleurs, on parlait tantôt des bêtes et on parlait tantôt des vaches. Si jamais les mots désignaient des choses, il n'y aurait pas de raison d'employer plusieurs mots. Et ce n'est pas pour éviter des effets de répétition, puisque le langage ordinaire se moque des effets de répétition. Non, mais quand on parle des bêtes, on parle des siennes. Quand on parle des vaches, on parle d'une certaine espèce animale, à l'échelle, par exemple, de l'ensemble des troupeaux d'un village. Et du coup, le rapport n'est pas le même. Bon, mais ça, c'était avant. Pour paraphraser une parole qu'on entend, je crois, de manière médiatique aujourd'hui. Alors, bon, si, quand même. Un élément de plus que j'ai appris, peut-être qui s'enracine encore plus dans une réalité locale, la parole, souvent, elle s'associe à des jugements. J'ai dit à des gestes, mais aussi à des jugements. Et quand les gens d'un même village me parlaient des autres, de ce qu'on avait envie de partager, ou surtout pas avec les autres, je me suis aperçu que d'un village à l'autre, les formes de solidarité n'étaient pas les mêmes. Et comme je fréquente pas mal de géographes, j'ai comparé les formes de solidarité que je trouvais dans tel ou tel village et la position de ces villages, notamment par rapport au réseau des routes, au réseau routier. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas la même chose en montagne d'être en bordure d'une route qui va tout le long d'une vallée. Ce n'est pas la même chose d'être au bout de la vallée. Et ce n'est pas la même chose d'être au bout de la route diverticule qui mène chez vous et qui ne mène nulle part ailleurs. Et ce n'est bien sûr pas là que les solidarités sont les moins fortes, vous vous en doutez. Mais ça, c'était avant. Je n'avais pas prévu la répétition, je suis désolé. Vous voyez que dans l'oralité, on répète sans forcément le chercher. Alors, parlons du plus récent, puisque j'ai été un peu lancé sur ce sujet. Le plus récent, c'est plus la cueillette, c'est peut-être davantage la chasse. En tout cas, c'est en provoquant la parole des gens. Et donc ça, c'est effectivement l'expérience des tréteaux du paysage. Tréteaux du paysage, c'est une manière de faire de la recherche animation qui s'est inventée dans un autre parc naturel régional, celui des Causses du Quercy, avec des gens qui s'appellent Laurent Lély, Anne Zeb, Hélène Moreau, Céline Castellan, il y a maintenant 6-7 ans. Et c'est quelque chose qui s'est fait, mais en fait qui s'est réinventé, on pourrait dire, parce qu'à chaque fois ça s'invente de nouvelles manières, en mai 2014, effectivement, à Saint-Lizier. Donc la question, c'est d'arriver à comprendre ce qui se joue autour du paysage et de toutes ses composantes, et d'essayer de comprendre un peu mieux, mais de le comprendre ensemble, de le comprendre avec les gens. En fait, c'est, si vous voulez, de la recherche animation, et c'est en même temps une forme de recherche participative. Comprendre la valeur que peut prendre le paysage pour les gens, et surtout le décollement qu'il y a à un moment donné entre la pure valeur d'usage des éléments du paysage. Bon, un arbre, on voit à quoi ça peut servir, hein. On en a entendu parler tout à l'heure pour l'ancienne métallurgie dans le Vic de Sceaux. Une maison, ben, quand on est habitant quelque part, on voit à peu près à quoi ça peut servir. Une route, j'en ai parlé par rapport à la desserte des villages et aux solidarités, ben, tout ça c'est évidemment la valeur d'usage. Et en même temps, si à un moment donné on parle de paysage, et s'il y a de tels attachements à l'ordonnancement de ces divers éléments du paysage, c'est qu'il y a une autre valeur sociale que la valeur d'usage. Et ça, c'est intéressant de voir quel est l'écart. C'est intéressant de voir aussi quelle est la différence du coût de la valeur qui s'établit selon la situation sociale des personnes. Je vous ai dit tout à l'heure que la parole et la mienne, sans échapper à la règle, étaient socialement situées. Eh bien, l'attachement au paysage, les formes d'attachement au paysage, c'est aussi socialement situé. Et on pourrait de nouveau parler de genre, d'âge, de classe sociale, d'identité professionnelle, et bien sûr, et tout particulièrement là, de territorialité. Le rapport au lieu, évidemment, compte beaucoup. D'où l'intérêt pour de telles opérations, des tréteaux du paysage, opérations, je le répète, de recherche-animation, d'arriver à faire se croiser, se mélanger, si vous voulez, interagir en tout cas entre eux, des gens qui sont des locaux, des habitants, et des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui ont une fréquentation assidue du territoire et des gens qui ne font que le découvrir. Donc ça, c'est un des premiers éléments de la méthode. Et le deuxième, c'est, finalement, on a envie de parler d'un attachement, et parfois, vous savez, on le dit, on se rend compte qu'on est attaché aux choses quand on les perd. Alors du coup, le paysage, il est là. Bon, en parler tel qu'il est là, l'intérêt va en être limité. Donc on a joué à perdre le paysage. On est passé par la fiction. Et heureusement, il y a, et Aurélien Herib vient de nous en faire la démonstration, des études sur l'évolution climatique qui nous prédisent des choses fantastiques. Donc on peut par exemple imaginer, c'est ce qu'on avait imaginé dans le Lot, qu'il y ait tout d'un coup une gigantesque inondation qui ne laisse que quelques points émerger, et qui noie les belles forêts, les beaux coups d'air, les beaux prés, les beaux murets auxquels les gens du Lot sont très attachés, sous des grandes épaisseurs d'eau. À Saint-Lizier, on a joué à un autre jeu en mai 2014, parce qu'on s'est rendu compte que l'eau, effectivement, en noyant, elle gommait peut-être un peu trop le paysage et le territoire qui le porte. Alors à Saint-Lizier, on a joué à l'onde de feu. Et donc on a proposé aux gens d'imaginer qu'une onde de feu s'était propagée, événement d'accentuation des phénomènes météorologiques, j'espère que j'en reparle bien, qu'on a purement imaginé, ne cherchez pas de fondement scientifique à ça, mais vous allez voir que c'est intéressant parce que l'onde de feu qui aurait tout brûlé, sauf l'émergence de Saint-Lizier, personne n'a tiqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la reprise médiatique du discours sur le changement climatique nous a bien préparés aux catastrophes, d'une certaine manière. C'est une première indication des tréteaux du paysage. On est prêt aux catastrophes, sachez-le. Et donc, du coup, voilà, l'onde de feu a tout brûlé, sauf Saint-Lizier. Et maintenant, par petits groupes, les gens circulent dans Saint-Lizier. Je crois que ça vous arrive dans quelques minutes pour ceux qui prendront le car, non ? Et essaient de voir un peu, du coup, comment on transforme Saint-Lizier pour que la vie non plus des quelques dizaines ou centaines de personnes, mais cette fois-ci des milliers de personnes autour qui sont des réfugiés, puissent s'organiser. Alors du coup, évidemment, c'est un lisier, on ne protège plus de la même manière le palais des évêques, la petite place à côté de la cathédrale, les jardins alentours, les murets, tout ça. Il y a des choses qu'on démolit, il y a des choses qu'on réorganise pour faire face à de nouveaux impératifs. Mais il y a quand même des choses qu'on garde, quitte à leur donner utilisation nouvelle. Et alors entre les gens, ça argumente. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir apparaître, tout autant que la parole, la naissance des argumentaires et la façon dont ils s'échangent. Et on voit aussi comment le pouvoir passe par la parole, puisque certaines personnes ont la détention des termes locaux, et donc ont autorité ou prennent autorité à en parler. D'autres ont la connaissance scientifique, ou en tout cas arrivent à faire apparaître aux autres, peut-être c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, qu'ils ont une forme de scientificité qui en impose. Et donc, du coup, là aussi, le pouvoir passe par là. Donc, on redécouvre de cette manière-là que, par le paysage et par la parole, eh bien, on retrouve tout ce qui fait le bonheur et le malheur de notre société, des jeux de pouvoir, des jeux de domination, des jeux de résistance. Et vous verrez tout à l'heure, quand je reviendrai là, que tout ce qui se dit à propos de la biodiversité n'y échappe pas.